Enchantée, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Mes origines sont ici, alors je suis bien ici, dans le sud, voilà, de Marseille, de Sanary-sur-Mer, de Toulon. Voilà, donc je suis, on est en famille, je pense, aujourd'hui. Donc, merci Verena, merci Pascal, merci Benjamin, merci Geoffrey, enfin voilà, et ceux que je ne connais pas encore, mais merci à vous tous d'être là parmi nous aujourd'hui. Ouais, chaque conférence qu'on fait avec Pierre, eh ben, on compte de belles histoires, des histoires qui touchent le cœur des gens, des histoires qui sonnent justes. Paul Elien, donc moi je suis passionnée de poésie et on commence. C'est le printemps des poètes, mais en fait ça devrait être tous les jours le printemps des poètes. C'est Edgar Morin qui dit « poétisons nos vies ». Et ben voyez-vous, chaque conférence qu'on fait avec Pierre, eh ben, on raconte de belles histoires, des histoires qui finissent bien pour traverser les mauvaises, voire les terribles, et on le voit malheureusement aujourd'hui dans le monde. Alors, on est dans cette veine de ces résistants de l'amour, dans la veine de ce poème « Liberté » de Paul Éluard. Voilà, vous connaissez l'histoire du poème « Liberté » ? Alors, allez voir, voilà. Allez vous acheter ce livre, je ne vous dis rien, parce qu'il faut s'acheter des livres, voyez. J'amène toujours des livres dans les conférences, parce que c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va préserver notre belle humanité. Dans Édition de minuit, Liberté. Allez voir l'histoire de ce poème. Ça vous fait verser des larmes. Et j'ose le dire, les larmes, à mon cher Pierre, c'est très important d'en couler des larmes sur nos visages. Et je vais vous dire pourquoi. Un jour, en consultation, une étudiante, j'allais lui donner un mouchoir, un Kleenex, et elle me fait « Non, je n'en veux pas ». Et j'apprends, grâce à elle, et je lui dis « Pourquoi vous n'en voulez pas ?» Elle me dit « Vous savez quoi ? En fait, quand mes larmes coulent sur mon visage et arrivent à ma bouche, je sens l'eau, la mer, la mer Méditerranée, mais la mer M-E-R-E aussi. » Donc, et on renforce un peu plus encore, Paul Éluard aussi dit « Pleure, les larmes sont les pétales de ton cœur ». Quand vous pleurez, vous libérez toute la tension, c'est cathartique de pleurer, de rire. Et c'est là où vous exorcisez vos affects, la fameuse catharsis d'Aristote. Donc voilà, je fête les 10 ans des prescriptions culturelles, donc je suis vraiment très contente de l'annoncer dans cette année. Hein. Ça a commencé cette histoire en 2006. Donc là, petite parenthèse, je suis une conteuse, pas avec O-M-P, mais O-N-T-E-R. Je vais vous conter des histoires et vous allez les relier dans votre cerveau grâce à cette brillante conférence de Pierre Lemarquis qui éclaircit et qui nous permet de traverser le brouillard actuel. Donc, les prescriptions culturelles, c'est quoi? C'est les, c'est pas la prescription, c'est les prescriptions. C'est des invitations à contempler ce que vous aimez, ce qui touche votre cœur, en fonction de votre histoire, en fonction de vos goûts. Et là, pas plus tard qu'à l'instant, pour l'interview pour Maritima, on est allé dehors avec la journaliste Nolwenn, je crois, votre prénom. Et elle me dit, vous voulez aller où? Dehors, dans la nature. Donc, la première prescription dans mon travail depuis le début, c'est aller dehors. Et vraiment, vraiment le colloque qu'avait organisé Verena en 2021, sans sortir, j'ai vraiment trouvé ce colloque était extraordinaire. Encore bravo, Verena, pour ce colloque. Sans sortir, d'abord, sans sortir, c'est sortir dehors. Donc, la question que je pose à chaque fois dans les consultations, combien de temps vous restez dehors par jour? Et voyez-vous, donc j'ai travaillé pendant 15 ans au pôle santé de l'université à Lyon. Et c'était la première question que je posais aux étudiants et étudiantes. Et surtout, après le Covid, alors encore plus, je la posais la question. Et en fait, qu'est-ce qui s'est avéré depuis le Covid? On a des étudiants, enfin, cette jeune génération, mais pas que la jeune, hein, aussi les adultes, qui ont une difficulté parfois de sortir. Si vous ne sortez pas, et ça c'est Hippocrate qui vous le dit encore, la nature est le premier médecin de l'homme. Il faut sortir. Là, vous écoutez le matin à l'aube les chants d'oiseaux, ça vous libère votre dopamine, votre ocytocine. Oui, pourquoi on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt? Moi, je vous dis, je me lève très tôt le matin. Pourquoi? Parce que vous entendez des choses, vous n'avez pas les voitures, vous avez un silence, et un silence humain pour entendre tous ces chants amoureux des oiseaux. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important que je dis. Voilà, prescription, ça s'appelle des prescriptions naturelles. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un mot d'esprit, prescription culturelle. Enfin, prescrire du beau. Qui sait qui est beau? Eh bien, il n'y a que vous qui le savez. Chacun ses goûts, comme disait donc Emmanuel Kant dans son livre Critique de la faculté de juger. Alors, il y en a un monsieur, en prescription philosophique, enfin, ça se décline en plein de multiples expressions, en fonction. Donc, ça se fait à chaque séance. Je ne sais pas ce qu'on va prescrire ensemble, parce que ce n'est pas moi qui prescris. En fait, c'est dans cette conversation, cette mise en conversation entre le cœur de la personne et le mien. Eh ben, en fonction de nos goûts, chacun, eh ben, qu'on va composer les remèdes. Alors, voyez le titre de ma conférence aujourd'hui, c'est les prescriptions culturelles, de doux remèdes par leur puissance poétique, ou on peut inverser, peu importe, voyez, mais c'est dans cette veine-là. Pourquoi? Ben, parce que quand vous contemplez ce qui touche votre cœur, eh ben, vous l'avez compris clairement avec Pierre, vous libérez vos neurones transmetteurs en des millièmes de seconde, et grâce à notre cher Giacomo Rizzolatti, qui est quelqu'un d'extraordinaire, eh ben, on apprend, j'ai appris. C'était, je crois, en 2018, j'apprenais la découverte de ces neurones miroirs. Et là, j'ai compris pourquoi c'était des puissants remèdes, ces invitations à contempler. Alors attention, ce n'est pas de l'art-thérapie. On va dans le même sens que l'art-thérapie, la muséothérapie, mais pas de la même manière. C'est des choses distinctes, complémentaires, mais distinctes. Pourquoi? Parce que les prescriptions culturelles, c'est on ne crée pas, on contemple. Mais, comme dit Pierre, la beauté caresse et sculpte votre cerveau. C'est-à-dire que vous êtes vraiment très actif dans la contemplation. Ce n'est pas une passivité, vous n'êtes pas dans une posture passive, tout au contraire. Et qu'est-ce qui va se développer en vous? Eh bien, c'est vous allez étayer votre capacité d'imagination. Le secret du bonheur, c'est quoi? C'est développer votre imaginaire. Alors, je vous prescris aujourd'hui Gaston Bachelard, avec l'eau et les rêves. Enfin, vous avez plein de livres de lui que vous pouvez retrouver, si vous n'avez pas envie de lire, en podcast. C'est génial, les podcasts. Allez essentiellement sur France Culture, parce que vous avez des podcasts qui sont complètement audibles. Quand il y a eu le Covid, voyez-vous, ces jeunes adultes, je leur prescrivais allez écouter donc la nature, allez écouter de la philosophie, prendre de la hauteur. Alors, la petite parenthèse, pas de la psychologie. Je suis psychologue clinicienne, mais pas du tout de la psychologie. Avant la psychologie, vous aviez dans l'histoire de la psychologie qui était en lien avec la philosophie. C'était intriqué. Au 19e siècle, la psychologie a voulu se démarquer, la psychanalyse, etc. Et en fait, ça a été leur grosse erreur. Il aurait dû falloir continuer ensemble à penser ensemble. Donc moi, je me nourris essentiellement aujourd'hui de la science, de la neurologie, de l'épigénétique avec donc Andra Spaldi, qui fait partie, donc, comme vous a dit tout à l'heure Pierre, j'ai fondé une association et j'ai demandé à Pierre d'être le président de cette association en 2018. Cette association, l'invitation à la beauté, vraiment en résonance avec Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Le sous-titre de notre association, c'est « La beauté ouvre le monde depuis la naissance de notre humanité et encore aujourd'hui ». La beauté est vitale et vous l'avez tous vu pendant le Covid et au niveau mondial, tout le monde a vu que la beauté était essentielle, était un besoin, c'était une survie psychique et physique. Donc là, si vous le voulez bien, de rentrer dans le vif du sujet, avec quoi? Avec des lettres de personnes qui... Alors, pas des extraits de lettres, je déteste découper des lettres, parce que la personne a mis le temps de tout écrire. Je vous lirai quelques lettres de personnes qui ont goûté et qui ont été soignées, voire guéries, cette contemplation de leur beauté. La beauté, donc la mise en conversation de la beauté naturelle et culturelle pour réveiller quoi? Sa beauté intérieure. Voilà, c'est quand même ça en fait le fond de l'humanité, c'est cette beauté intérieure qu'on la cultive avec cette contemplation de la beauté extérieure. Donc je vais vous lire une lettre, deux lettres Ah oui, parallèlement à ça, là où ça a été quelque chose qui a propulsé cette envie de fonder cette association, c'est, et on est encore en podcast, sur France Culture, la série documentaire LSD. Est-ce que certains la connaissent dans l'assistance? Oui, donc vraiment, je vous la prescris, mais voilà, c'est un jeu de mots, hein, je vous prescris, d'accord? LSD, série de documentaire LSD, où là, neurosciences, deux points, comment l'art nous guérit? Là, ben c'est là où j'ai découvert Pierre Lemarquis. Comment vous y connaissez? Eh bien, en fait, à la radio. Et j'ai découvert ce monsieur qui était d'une profonde empathie envers ses soignés. Et pas tout le monde l'est, hein, en empathie au niveau des professionnels de la santé. Et donc là, eh ben, j'entends une conversation de Pierre avec une de ses patientes extraordinaire. Et là, je découvre donc les neurones miroirs. Et c'est comme ça que je contacte Pierre pour eh ben, qu'il soit le président de notre association. Alors, en résonance avec ça, eh ben, une étudiante un jour, alors c'est rigolo, la vie, je l'ai rencontrée à un croisement à Arles, mais un croisement dans une petite rue de cette jeune fille qui avait écrit cette lettre. Et je dis, mais c'est pas possible, mais vous êtes là? Et là, on dit, mais en fait, et encore Paul Éluard, mais il y a Anna de Noailles, hein, que je vous prescrirai si vous, le cœur vous en dit tout à l'heure. J'ai dit, mais c'est quand même dingue. Et Paul Éluard dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. En fait, le monde, il n'est pas si grand que ça, en fait. Il faut avoir l'œil. Et quand on a l'œil, eh ben, on se rend compte qu'il est proche, en fait, ce monde. Alors, je vais vous lire donc de cette jeune fille dont je vais vous parler à l'instant, une lettre et qui est extraordinaire. Donc, elle, je lui prescris régulièrement en séance, donc une fois par semaine. Et elle écrit cette lettre, elle m'adresse cette lettre. Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince. À la simple constatation que le courant de la vie, chacun puisse être inévitablement tourmenté par des instants de tristesse, de désarroi, d'échec, de perte ou de crainte, j'ai découvert très jeune un remède authentique et universel à ce spleen m'envahissant parfois. Porté par ce désir profond de retrouver un goût abondant pour la vie, une sincère confiance en l'humanité, il me suffisait de m'installer paisiblement, de m'adonner à la lecture de l'ouvrage de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, en m'abandonnant aux mots de ce petit être si surprenant. Oui, je m'auto-prescris ce conte philosophique chaque année, tel un éternel recommencement. Le Petit Prince invite les hommes à s'emparer de leur propre humanité, vient transformer l'individu en lui proposant une dimension ultime à un altruisme sans pareil. Il convie le lecteur à garder et poser un regard sur son esprit d'enfant, corollaire de cette naïveté, de cet amour éloigné de tout intérêt. Entre conte pour enfants et philosophie pour adultes, ce témoignage insouciant vient s'ajuster à tout un état d'âme, à cette terre où la raison environne les relations humaines, où le matérialisme transcende les unions, le petit prince s'indigne en clamant qu'il est indispensable de choisir avec son cœur. Puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bravo. En ce sens, il incite à vivre un réenchantement du regard et recentrer l'homme dans l'humanité afin qu'il puisse réinvestir son rôle. Ainsi, cette voix pure et véritable sortant du cœur ferait renaître une authentique spontanéité des sentiments. Chaque communion de corps et d'esprit respire indépendamment de toutes les autres. Cette essentielle singularité est née d'une beauté sans pareille, comme la clame le renard à l'enfant. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Fin de citation. Saint-Exupéry convoque son lecteur à méditer sur les fléaux menaçant sérieusement nos civilisations. Voyez, encore aujourd'hui, malheureusement. Entre un vaniteux, un businessman, un roi, un géographe et bien d'autres hommes croisés lors de ses voyages, l'enfant candide enseigne à l'adulte la dérision de ses caricatures et la valeur absolue d'une rose. Véritable remède pour le lecteur désemparé, pouvant par conséquent mettre en balance réalité et fiction, voire même assimiler le comportement d'un des protagonistes avec celui d'un membre de commun des mortels. Le lecteur patient, constatant qu'il n'est point le seul à souffrir des interactions sociales, se trouve ainsi apaisé et nourri de positivisme. Face à l'aviateur adulte confronté à la disparition, à une séparation physique inéluctable, constatant qu'il ne supportait pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire, l'enfant enseigne comment ne plus songer à la mort. Ajouter de la vie bien qu'il n'y en ait plus. Voici le secret du petit prince. Oui, la personne défunte, tant aimée, reste, elle règne simplement en étoile. Il invite l'endeuillé à réinstaurer le rapport au ciel établi dès sa plus tendre enfance. Le regard posé sur cette dernière et l'amour sans filtre qu'elle procure enivrent le petit prince, se nourrissant aisément de la beauté du monde. Dans cette quête essentielle d'ascension au réel d'épanouissement de soi et celle de la possession d'une force incommensurable au défi de toute épreuve de la vie, il est nécessaire d'assimiler que c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce que l'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de juger toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Fais de ta vie un rêve, une réalité. Auto-prescrivez-vous annuellement cette histoire, ouvrez vos cœurs à cette promesse d'un retour en enfance, d'un retour sur soi, d'un appel à la beauté et à la simplicité. Quand vous recevez une lettre comme ça, eh bien, je peux vous dire que ça libère votre dopamine encore plus. Et donc, voilà, tout à l'heure dans l'interview, alors cette nouvelle génération, c'est l'avenir. Et l'avenir et cette nouvelle génération est de toute beauté. En consultation, aujourd'hui, je reçois des jeunes qui ne sont pas entendus. Vous savez, le fameux TDAH, OK ? TDAH, ces enfants, ces jeunes adultes ne sont pas TDAH. C'est des enfants qui ont beaucoup de dopamine et d'ocytocine. Troubles du comportement. En consultation, je travaille au CHU de Saint-Étienne avec un centre spécialisé pour des patients, des jeunes filles anorexiques, essentiellement des jeunes filles anorexiques et boulimiques. Les prescriptions culturelles sont de puissants remèdes pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont d'une douceur absolue. Voyez-vous, à l'université, j'ai créé un groupe. Alors, il y avait 6 jeunes filles, 6 étudiantes brillantes en lettres, psycho et droit, essentiellement. Et ces jeunes filles, encore avaient des troubles du comportement alimentaire malgré des études supérieures. Et elles ne voulaient plus aller voir des psy. Elles disaient, moi, j'étais enfermée en psychiatrie, j'étais enfermée. Et là, il faut critiquer pour faire mieux, en fait. Parce que qui c'est qui trinque ? C'est pas nous, c'est ces jeunes filles. Et ces jeunes filles, je leur ai demandé au début de ces séances, donc le mouvement, le sport, Pascal, c'est un puissant remède. C'est aller dehors, faites du sport, comment vous dormez, comment vous mangez. D'abord, vraiment, l'état émotionnel et physique qui va après neurologiquement et psychiquement advenir autrement. Et ces jeunes filles, vous savez comment elles se sont appelées ? Les muses à la fourchette d'argent. Vous vous rendez compte. Et ces jeunes filles, pendant plusieurs années, parce qu'elles étaient à l'université en études, on avait fait un partenariat avec le Centre chorégraphique national de Rieux-la-Pape. Et donc, ce n'était pas de la danse-thérapie, c'était des prescriptions dansantes. Pourquoi ? Parce que celles qui conduisaient en fait cet atelier n'avait pas fait d'art-thérapie, n'était pas formée à l'art-thérapie. Elle était dans une spontanéité, mais elle avait une fibre soignante. Moi, je choisis des gens où je sens la fibre soignante sans diplôme, mais vraiment une prise, une écoute précise pour savoir si la personne va pouvoir accompagner ces jeunes filles. Et c'était merveilleux. Donc là, Icar de Valentine, cette photo, elle a été publiée en 5000 exemplaires par Agnès B., qui est partenaire de cœur de notre association. Donc là, elle est où, cette œuvre ? Elle était donc dans 2 services que notre association fait des projets innovants, 3 ans, avec des fonds de dotation qui vont financer des parfums, les prescriptions parfumées que vous aurez, ceux qui seront à l'atelier cet après-midi. Donc le patient choisit son parfum, choisit son œuvre d'art, donc à l'hôpital, donc en médecine interne, à l'hôpital Lyon Sud, 40 œuvres d'art originales, pas des copies. Le musée du Louvre prêtait des reproductions. Moi, je disais, mais en fait, il faut faire proposer des originaux avec des artistes vivants. Pourquoi ? Pour que le patient, la patiente, peut avoir l'occasion, à un moment donné, eh ben, de rencontrer son prescripteur artistique ou sa prescriptrice artistique. Et eh ben voyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Fais de ta vie un rêve, une réalité. Et eh ben voyez-vous, dans ces histoires, eh ben, fais de ta vie un rêve, une réalité. Et là, eh ben, la réalité a dépassé mes rêves. Vous savez pourquoi ? Parce que je travaille avec des équipes soignantes profondément empathiques. Les antipathiques, passez votre chemin, on ne pourra pas travailler ensemble. Il faut être des soignants amoureux. Amoureux, c'est quoi ? C'est vraiment être guidé par votre cœur. Et bien voilà, Icare, vous connaissez le mythe. Et bien ça, c'est une jeune fille. Donc voilà la nouvelle génération. Elle est de toute beauté. Elle est d'un courage absolu. Elle est discrète. Moi, je suis une défense. Vraiment, je défends cette nouvelle génération qui trinque énormément aujourd'hui. Il faut quand même que vous sachiez, je ne vous parle que de Lyon. Hôpital psychiatrique. Là, c'est en consultation que je vois ça. Des familles qui viennent voir pour leurs enfants. Leurs adolescents. Et bien là, même à l'université, voyez-vous, une jeune fille qui vient me voir un jour et grave dépression. Qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, ben voilà, en fait, j'ai eu de la sismothérapie. Vous savez ce que c'est la sismothérapie ? Les électrochocs. OK ? Aujourd'hui, nous avons à Lyon, moi je ne sais pas dans votre région, mais à Lyon, des hôpitaux publics, psychiatriques, où on va prescrire des électrochocs. Mais alors qu'on pourrait auparavant faire d'autres choses. Pourquoi ? Pénurie de soignants, résistance aux neuroleptiques, et donc qu'est-ce qui se passe ? Soit contention et maintenant sismothérapie. Cette jeune fille, elle vient me voir et je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, on m'a fait des électrochocs, on m'a convaincue, et voyez-vous, j'ai plus de mémoire affective. Son copain lui dit, tu t'en rappelles de ce voyage ? Tu t'en rappelles ? Rien. Imaginez-vous un instant de plus avoir de souvenirs dans votre cœur. Mais vous mourrez psychiquement et après physiquement. Donc Icare, voyez, il s'envole. Et ce tableau, enfin cette photo, eh ben, elle est vraiment soignante pour ceux qui sont en empathie. Je me rappelle la cadre de soins. Donc à l'hôpital mère-enfant, on a fait un projet sur 3 ans aussi. L'enfant du bébé jusqu'à 18 ans, eh ben, on pouvait avoir des œuvres d'art avec un poème. Vraiment, quand vous mettez en conversation un tableau original avec un poème, ça n'a rien à voir que si vous mettez qu'un poème ou qu'un tableau. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez, donc le patient choisit son poème, eh ben, il va stimuler l'imaginaire du contemplatif ou de la contemplative. Mais ça ne se fait pas avec une personne, ça se fait souvent avec les proches et les soignants. Et les résultats cliniques sont excellents. C'est-à-dire que les soignants, eh ben, eux aussi, eh ben, ça leur met du baume au cœur. Et le rapprochement, les liens d'attachement sont d'autant plus importants. Un jour, une cadre de soins arrive et elle voit, donc c'est une grande photo de baleine qui vient de La Réunion. Une artiste nous a offert pour notre association. C'est que des dons, hein, des artistes. Et là, elle rentre et dit « Ah, mais ça me rappelle !» Et elle raconte un moment dans son intimité. S'il n'y avait pas eu ces baleines, eh ben, elle n'aurait jamais en fait, libéré ses neurotransmetteurs, c'est-à-dire son ocytocine essentiellement. Donc cette œuvre, eh ben, elle fait soin et elle peut guérir. Pourquoi ? Mais bien évidemment, en lien avec le traitement allopathique. Attention, hein. Mais que le traitement allopathique sans ses actions au niveau culturel, eh ben, ça a moins d'effet. Dès la première année en médecine interne, l'équipe soignante nous dit, donc à l'équipe de l'invitation à la beauté, eh ben, aujourd'hui, on diminue les sédatifs et les antalgiques. Parce que la personne, elle a contemplé. Alors, je vais vous lire. J'ai encore combien de minutes, Verena ? Parce que quand je regarde pas l'heure, c'est parfait. Donc, on va en médecine interne. Donc là, vous êtes tous auto-prescrits. L'art qui guérit, bien évidemment. Si c'est pas fait, eh ben, si vous n'avez pas l'argent pour aller vous l'acheter, allez en bibliothèque. Il y en a de plus en plus dans les bibliothèques. Mais si vous l'avez comme cadeau, au lieu d'un bon Fnac, achetez ça, ça va vraiment mettre du baume à votre cœur. Alors là, c'est une lettre d'Agnès, qui est une des ambassadrices de notre association. Donc en médecine interne, elle reste 15 jours dans le service. Et donc, je vous lis la lettre qu'elle nous adresse à l'association. Mes 15 jours avec Buster Keaton. Donc, Buster Keaton, je vais vous faire voir sa photo. Donc, Buster Keaton, c'est de Big Ben. Big Ben, c'est un street artiste à Lyon qui est très connu. Et donc, il fait ça, en fait. Il colle des œuvres d'art. Donc, il fait des musées dans la rue. Et aujourd'hui, Lyon, ils font des visites de street artistes pour les touristes. Alors, je vais vous lire sa lettre. Mes 15 jours avec Buster Keaton. Je pense n'avoir vu que ce tableau lors de mon arrivée dans ce service. Pourquoi? Je ne sais toujours pas pourquoi. Je pensais n'être là que pour 5 jours, mais le professeur Thuriot m'a fait comprendre que 15 jours seraient mieux. Et comme récompense, j'avais le droit de choisir un tableau parmi ceux exposés dans les couloirs. Je n'ai même pas voulu voir les autres. J'ai pris votre tableau. Pourquoi? Au fil des jours, j'ai trouvé des réponses au travers des nombreux messages qu'il transmettait. L'homme se retourne sur sa vie. Il regarde l'enfant au regard neutre, mais ses bras enserrent ses genoux, comme pour se protéger. Cet enfant aurait-il peur de l'avenir? Aurait-il tout simplement peur de grandir? Le regard bienveillant de l'homme a l'air de l'encourager, de lui dire que rien n'est invincible quand on accepte de se battre et que l'on arrive à une sérénité au fil des ans. L'adulte qui tient ses genoux dans ses bras est souvent signe de décontraction et de bien-être. Que c'est la vie, que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais un autre message fort, c'est qu'il existe un enfant, chacun de nous, et que cette part d'enfant est essentielle pour grandir et vivre. Qu'il faut non seulement la montrer, mais aussi la cultiver tout au long de notre existence. Il y a bien d'autres messages dans ce tableau, mais je ne suis pas enclin à écrire un livre avec 4 points d'exclamation. Alors oui, Monsieur Big Ben, j'ai passé 15 jours merveilleux avec Buster Keaton. Il m'a ouvert des discussions avec le personnel soignant, faisant naître avec eux une relation plus profonde et plus large que les soins quotidiens. Il m'a permis aussi de me retourner sur ma propre existence et de me dire que ces tableaux résumaient assez bien ma vie. Mais il existe une énorme différence entre Buster Keaton et votre humble admiratrice, c'est que j'adore rire et que je n'imagine pas une journée sans rire. Merci à vous. J'espère avoir l'honneur de vous rencontrer un jour. Agnès. Alors, je vais raconter la fin de cette histoire incroyable. C'est que quelques mois après, donc la télé belge, la RTBF, faisait donc dans une série qui s'appelle Matière grise, une émission sur les innovations soignantes en Europe. Ils sont allés en Suisse, en Belgique, en Espagne, et ils sont venus chez nous, en service de médecine interne, pour interviewer sur les prescriptions culturelles. Et là, il faut inviter les principales concernées. Donc, j'ai proposé à Agnès d'être interviewée. Agnès, elle n'était plus à l'hôpital, elle était à sa maison. Donc, on est allé avec l'équipe à sa maison. Et là, avant d'aller à sa maison, elle me dit, Laure, est-ce que ça serait possible que Big Ben me fasse à l'identique ce tableau pour ma maison? J'aimerais l'acheter. Et ben, je demande à Big Ben, et Big Ben, bien évidemment, avec un cœur en or, et ben, il a fait vraiment à l'identique ce tableau qu'elle avait pendant 15 jours dans sa chambre. Et donc, le jour du tournage, ben, voyez-vous, le prescripteur artistique de Agnès avait amené son remède artistique et elle l'a accroché dans sa salle à manger. Voilà, j'aurais imaginé ça. C'est là où je vous disais, la réalité dépasse nos rêves. Et ça, c'est tout de même une bonne nouvelle. Donc là, je vais vous raconter, Pierre vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, de Laura. Laura, je l'ai rencontrée. Alors, Laura s'est envolée. Laura, donc dans le service de médecine interne, c'est un service sur les maladies chroniques. Et dans ce service, on diagnostique des maladies très graves, des cancers. Et donc, Laura, je rentre dans sa chambre 4 ans avant, et elle met un tableau. Ce n'est pas un tableau, c'est une photo, cette fois-ci. Et c'est, donc, le titre s'appelle « À travers mon pare-brise ». Donc, c'est une vision urbaine de nuit sous la pluie et avec des éclairages très doux dans les tons de jaune, de rouge, mais un rouge tendre. Alors, je vous lis sa lettre. Un tableau dans ma chambre. J'ai posé les yeux sur toi, tu m'as parlé. On m'a proposé de te garder près de moi et sans hésiter, j'ai dit oui. Depuis que tu es là, accroché en face de moi, je ne cesse de te regarder. Ton élégance illumine mes journées monotones. Avec tes multiples visages, je me sens entourée. Je sais que tes trois anges veillent sur moi à chaque seconde qui passe. Quand je t'observe, discrètement, je t'entends chanter, un chant doux, comme une berceuse. Je suis fière de te présenter aux rares visites que j'accueille. Tu fais intégralement partie de mon quotidien avec l'équipe soignante ou avec les visiteurs, nous échangeons sur ta beauté. Tu as changé mon air. Avec toi, tout est plus léger, plus agréable. Tu as le pouvoir d'apaisement, un pouvoir vital. Dans ma situation où tout est prêt à s'écrouler, quand je sens l'énergie mentale diminuer légèrement, je te dévisage. Il suffit de quelques secondes pour que je retrouve la force de m'accrocher. Mes yeux te dévorent sans relâche, tu m'attires, je t'admire. Alors voyez-vous, 4 ans après, je la revois, ou 3 ans après, bon, peu importe. Et là, c'est assez étrange comme sensation parce que vous êtes contente de la revoir et en même temps, vous dites, ben voilà, elle est encore là. Est-ce que, Benjamin, tu peux changer de slide? Merci. Et donc je retourne dans sa chambre et là, cette fois-ci, ben, j'avais les parfums. Parce que nous, dans nos actions soignantes, on évolue, on progresse. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas les parfums au départ. Et donc là, quand je la revois, ben, il y avait les parfums. Et là, ben, elle tombe sous le charme et ben, de Vanille Impériale. La Vanille Impériale qui a créé, donc c'est Jean-Charles Semerat qui me fait mes prescriptions parfumées, qui sont faites sur mesure et en fonction des symptômes que je lui décris et la visée, les visées thérapeutiques qu'on souhaite avoir à travers l'inhalation de ces parfums. Sachez que quand vous sentez votre parfum, vous ici dans l'assistance, vous aimez vous parfumer. Qui c'est qui se parfume? Voilà, pour avoir un peu. J'aime bien découvrir les publics. Waouh, super, génial. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Quand vous mettez votre parfum, si vous le mettez là, la peau est très fine, en 18 millièmes de seconde, vous libérez vos neurotransmetteurs. Vous ne pouvez pas, vous pouvez discuter, ça j'aime ce tableau, vous forcez à aimer un tableau, mais un parfum, jamais de la vie. Donc pourquoi, quand je commence une consulte, c'est avec le parfum? Parce que là, je vais stimuler la capacité à la personne d'écouter sa liberté de son cœur. Et donc là, vanille. Et là, je lui passe je vais pour lui sprayer. Parce que je demande toujours où vous voulez que je vous spraye le parfum. Et toujours, c'est du sur-mesure. Je dis souvent, ce que je fais, c'est le soin est un art, l'art est un soin. On ne fait pas n'importe quoi, comme disaient des proches. Hein. On ne fait pas de l'humour avec n'importe qui, le soin, c'est exactement pareil. Il faut être des professionnels de la santé pour le faire. Et donc là, elle prend le flacon et là, elle en met dans toute la chambre. Et là, mais là, voyez-vous, ça peut faire le syndrome de Stendhal aussi. Ça vous fait faire des nœuds et ça peut être vraiment contre-indiqué. C'est pour ça que je parle de prescription. Un détail d'importance également, quand je rentre à l'hôpital dans le service, je vais toujours avoir une réunion avec l'équipe soignante. C'est sur prescription médicale que je vais proposer des prescriptions culturelles. Je ne rentre pas comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce que la personne peut être très fatiguée. La personne a reçu un diagnostic terrible. Et là, il n'y a plus de parfum, il n'y a plus de tableau, il n'y a plus rien. On a besoin de se recroqueviller, on est dans un instinct de survie. Et donc là, eh ben, au fil des semaines, parce qu'elle restait, elle est restée à peu près 2 mois, et là, eh ben, qu'est-ce qu'elle me disait? Mais en fait, moi, c'est mon doudou, en fait. C'est mon doudou, ce parfum. Eh ben, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé de ce parfum? Moi, je ne le savais pas, hein, je ne suis pas dans le cœur des patients. Et bien, qu'est-ce qu'elle me raconte après? On se revoit un peu plus tard. Et elle me dit, ben, vous savez quoi? J'ai eu un mot. Ah non, c'est ça que je voulais vous dire, ce n'est pas ça. C'est entre le moment où on s'est quitté 4 ans avant et le moment où je la revois avec la vanille, le moment, la première fois où je la revois, elle me dit, au fait, il faut que je vous dise quelque chose. C'est que quand, et là, Pierre vous l'a un petit peu dit tout à l'heure, et bien, quand j'avais mal, eh ben je me concentrais sur le souvenir de cette photo. Et en me concentrant sur ce souvenir, eh ben je n'avais plus mal. Oh, allô Pierre, alors il faut que je te raconte. Et voilà, et comme ça, je travaille avec Pierre, comme ça, je raconte plein d'histoires qui ne te font pas t'endormir, hein, au contraire. Hein. Et donc voilà. Et elle, eh ben, elle nous a appris quelque chose encore. Et voyez-vous, je suis émue parce qu'elle n'est plus de ce monde et elle nous fait encore progresser. Voilà. Et donc après, on est parti à l'hôpital mère-enfant parce que ça a fait des résonances, des échos sur d'autres hôpitaux. Ah, vous pouvez venir? Ah ben non, mais moi, en fait, donc je peux pas. C'est pour ça qu'on a créé un diplôme universitaire et une formation qualifiante à la faculté Claude Bernard pour que moi, je veux vraiment que ça se distille, les prescriptions culturelles. Mais il faut être habilité. Et comment on est habilité? Eh ben, en étant formé. Voilà, je dis souvent, vous voulez couper des bons sushis, il faut un bon couteau. Mais ce couteau, ben, il faut vous expliquer le mode d'emploi. Donc là, vous avez, donc Benjamin, vous vous a mis donc ces deux formations qui sont à la faculté de médecine et donc le DU où on a nos chercheurs de l'invitation à la beauté. Donc en épigénétique, en biologie cellulaire, il y a des artistes aussi qui sont là. Nous avons aussi une personne qui a un diplôme universitaire d'art thérapie aussi, Fabrice Chardon, pour vraiment distinguer. Nathalie Bondil aussi est là pour distinguer que ce n'est pas la même chose, mais on va dans le même sens. Donc ensuite, on est parti à l'hôpital Mère-Enfant en service d'urovisceral avec un monsieur, un chef de service aussi d'une profonde empathie, qui s'appelle le professeur Pierre-Yves Mur, qui a, peut-être que vous avez entendu parler, fait une prouesse extraordinaire. Il a donc deux petites filles du Cameroun qui étaient à l'âge de 2 ans, qui étaient siamoises, et elles avaient le foie en commun. Il a fait cette opération incroyable. Elles sont sauvées, ces petites filles, maintenant qu'elles sont grandes. Et donc là, il était touché par ce projet. Et on est parti donc avec des tableaux, mais en fonction des âges de 0 à 18 ans. Alors, vous allez me dire, un nourrisson, un tableau avec un poème, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si, voyez-vous. Pourquoi? Parce que quand la maman, le papa prend le bébé dans ses bras, en contemplant le tableau et le poème qu'ils ont aimé, sachez que le bébé est apaisé. Donc là, c'est vraiment les liens d'attachement de cœur à cœur que ça se passe. Je vais vous raconter rapidement, on a un petit garçon qui est l'ambassadeur aussi de notre association qui s'appelle Slay et toute sa famille que je rencontre encore aujourd'hui, voyez-vous. Et ce petit, il est resté un mois dans le service, il a une maladie chronique, il ne sera jamais guéri cet enfant, mais... vraiment un docteur aujourd'hui, artistique. Pourquoi? Parce que toutes les œuvres d'art exposées dans le couloir, il les a dessinées et il en a fait. Donc, on a un catalogue, donc prescription artistique maintenant de Slay. Vous voyez comme ça fait ricocher. C'est vraiment très, très beau. Et donc là, un jour, je rentre dans le service et là, ils disent, encore une pénurie de soignants. Et il y a une soignante qui dit, alors il y a ce bébé, il n'arrête pas de pleurer, la maman, une jeune maman qui s'était absentée quelques minutes. Et donc, c'était plus que quelques minutes, parce qu'on est resté 1h30 dans la chambre de ce petit bébé. Et là, je fais des massages sonores aussi avec des berceuses. Enfin bon, j'ai plein de choses, ça ne peut pas se résumer en 45 minutes. Et là, les berceuses, ça l'énervait encore plus. Et là, j'étais avec une de mes étudiantes, je dis, tu sais quoi, Daniela, je vais lui susurrer à l'oreille un poème. Et là, je le susurre en vertu de l'amour de Paul Éluard. Et ce bébé, petit à petit, ses sanglots s'apaisent et s'arrêtent. Alors là, encore une fois, la réalité dépasse les rêves. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, on va attendre la maman parce qu'on veut comprendre. On ne comprend pas tout seul. On comprend dans un esprit collectif. Et là, la maman, je lui raconte, vous savez, c'est incroyable. Elle me dit, mais oui, mais c'est normal. Quand mon bébé était dans mon ventre, je lui récitais chaque jour, mignonne, allons voir si la rose de Ronsard. Je ne savais pas que la poésie pouvait être un pansement vitalisant, comme disait notre cher ami Charles Juliet, qui s'est aussi envolé, un pansement vitalisant. Voilà. Même en intra-éthérin, la poésie est un puissant remède. Voilà, et donc ensuite, on est parti pendant 3 ans à l'hôpital Garot, parce que vraiment, notre association, c'est tous les âges de la vie. Et là, donc moi, j'ai travaillé en comité d'éthique à l'hôpital pendant pas mal d'années sur la question de la sédation. Et là, il y a eu aussi des dérives, donc il faut progresser. Et donc là, un projet qui s'appelle, qui est fini, qui était une action sur 3 ans aussi, avec un fonds de dotation qui nous a financé. Et c'était l'échappée belle en parfum et musique jusqu'au bout de la vie des aînés. Et donc là, j'ai combien de minutes encore? 5, c'est parfait. Parce qu'il faut que je vous récite est-ce que vous voulez un poème ou on laisse tomber? Vous en voulez un, ok. Donc là, Roger, donc là, je vous prescris un autre livre de Pierre Lemarquis. Donc c'est L'art qui guérit la mémoire. Et donc là, je vous passe la description du conte aromatique de Jean-Charles Semara, qui est Jean-Charles, un poète aussi en herbe. Et donc là, je vous lis un bout du livre de Pierre. Roger, par exemple, a choisi le parfum éclat de bois, qui, selon Jean-Charles Semara, son créateur, possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Et je peux vous l'assurer que ça a de nombreuses, vraiment effet thérapeutique, surtout quand vous rencontrez des patients qui ont des maladies neurodégénératives, qui ne peuvent plus parler. Donc, on va vraiment se brancher sur le langage corporel avant le langage verbal. Donc, moi, j'ai soigné des personnes, pas guéri, mais soigné. J'ai accompagné des gens dans le coma. J'ai accompagné, voyez-vous, des personnes dans le coma où les familles me demandaient de venir aux obsèques pour faire une séance. J'appelle ça des éclats de beauté pour leurs proches. Donc, je revenais avec le... Et pour Roger, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée, on m'a invitée aux obsèques avec éclats de bois et j'ai récité le poème « Élévation » de Charles Baudelaire et tout le monde s'est parfumé d'éclats de bois et on est tous... Roger était ce jour-là présent avec nous, mais une présence pas physique, mais bien évidemment psychique. Roger nous attend dans la chambre, installé dans son fauteuil, en compagnie de son épouse et de deux de ses enfants. Après avoir choisi ce parfum, il souhaiterait entendre Jacques Brel. Amsterdam, propose Laure Maillou. Non, saloperie, la valse a mis le temps. Laure obéit et au premier temps de la valse passe son enceinte d'abord sur la nuque de Roger qui en ressent les vibrations, puis la tourne autour de sa tête comme une planète en rotation, tandis qu'un sourire s'affiche déjà sur son visage. Il murmure bientôt tout bas et ne tarde pas à bouger les pieds, battant la mesure, suivant le rythme qui s'accélère puis devient effréné. Et maintenant, les bonbons, demande avec gourmandise Roger qui en salive d'avance. Puis vient à le moment des poèmes. Hélène, son épouse, a apporté des textes qu'il a écrit dans sa jeunesse. L'un de ses fils va en lire des extraits à voix haute. La petite parenthèse d'importance, eh ben voyant que moi je lui récite, je lui presserai, donc j'ai des poèmes par cœur dans mon cœur, que je fais inhaler le temps de la séance en fonction, encore une fois, de l'état émotionnel du jour de la personne, du jour de la séance de la personne. Et là, un jour, ah mais vous savez, mon mari, il écrivait des poèmes. Ah bon? Eh bien, voyez-vous, la famille ne le savait pas. Le papa écrivait des poèmes discrètement. Donc là, c'est un secret pas traumatique. Et donc là, eh bien, un des enfants, dans une séance qu'on a fait tous en famille, il a lu un des poèmes de son père sur Mozart. Eh bien, je peux vous dire que j'en ai encore les frissons, parce que là, c'était un secret et de toute beauté. Puis vient le moment des poèmes, Hélène, voilà. L'un des récits relate avec humour des souvenirs de randonnée en montagne. Et lorsqu'il s'interrompt, le regard de Roger se fait plus brillant. Mais ce n'est pas fini. Plusieurs dizaines d'années plus tard, son œuvre lui est soudain revenue en mémoire. D'autres vers célèbres, Mozart, sauveur du monde, ça c'est ce qu'avait écrit Roger. Et le concerto pour clarinette clôt en douceur cette séance apaisante. Hélène est une des ambassadrices aussi de notre association. Et elle a adressé une lettre. Bonjour. Suite aux visites de Laure Maillou, je vous adresse cette lettre pour vous témoigner des bienfaits de la musique et des parfums qu'elle propose à mon mari. Malheureusement, on ne veut pas expliquer ce que l'on ressent dans notre cœur, qui est parfois plus fort que les mots. Quand Laure vient dans la chambre de mon mari et que nous faisons ensemble des conversations, je le sens plus sûr de lui. Ce sont des moments apaisants, réconfortants. Avec le parfum éclat de bois dans son fort intérieur, il se sent soulagé. Ça lui fait du bien sur le plan émotionnel. Laure lui apporte de la sérénité. De plus, Roger aime beaucoup la musique et cela doit lui apporter des sentiments personnel, d'autant plus qu'il parle de moins en moins. La musique est un éternel remède qui vous traverse le cœur. La poésie vient également s'ajouter à son désir d'évasion. Son amour des mots restera toujours pour lui un jeu. Avec la musique et le parfum qu'il choisit, les souvenirs de pêche en rivière se réveillent avec des moments de plénitude et de bonheur. Les beaux souvenirs redressent le cœur. Échanger aujourd'hui avec les enfants et ses petits-enfants sur la musique et la poésie sont des moments privilégiés qui lui apportent du baume au cœur. Hélène. Alors, vous verrez la suite, c'est vraiment très beau. Voyez-vous, donc aujourd'hui, c'est clair, net, et c'est clair comme de l'eau de roche. Comme vous a dit Pierre, le rapport de l'OMS de 2019, aujourd'hui, voyez-vous, les arts, mais je dirais plus que les arts, la beauté naturelle mise en conversation avec la beauté culturelle et la beauté culturelle, ce que je disais tout à l'heure lors de l'interview, comme prescription musicale de cette nouvelle génération. Vous savez qui c'est? Devinette. Qui c'est le meilleur docteur musical aujourd'hui auprès des jeunes? Maître Vise? Tu dis pas, Pierre, parce que toi, tu sais, tu dis pas. Allez-y, qu'on rigole. Ah non, pas tous en même temps, levez le doigt et comme à l'école, s'il vous plaît. Pardon? Le J. Et voilà, dans le J, il y a Joli, dans le J, il y a Joule. Donc, il faut que vous lisiez un autre livre de Pierre Lemarquis qui s'appelle « Les pouvoirs de la musique sur le cerveau de l'enfant et de l'adulte ». Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir Et ben, comment Jules est un puissant docteur, comment Billie Eilish est une puissante, vraiment doctoresse, comment Théodora, comment, voilà, écoutez. Sachez que le rap, moi j'adore, la petite parenthèse, je suis allée voir Jules en concert au Vélodrome l'année dernière. 80 000 personnes, avec mes enfants j'étais, 80 000 personnes qui chantaient à cœur joie, mais toutes les chansons du début jusqu'à la fin. Et là j'ai dit, mais qu'est-ce que cette nouvelle génération, mais toutes les générations, enfin plus la nouvelle génération, mais faut pas se fier aux apparences, hein, voyez-vous. C'est un prince au grand cœur. Et voyez-vous, je travaillais en clinique psychiatrique auprès de patients qui, donc aussi malheureusement des jeunes. Qui était en cours de désintoxication, héroïne, cocaïne, addiction au sexe, enfin, je vous dis pas. Et ben, voyez-vous, ils avaient leur casque comme ça, dans le parc. Et là, en consultation, c'est quoi que vous écoutez? C'est quoi que... Jul, 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 Johnny, Jul. Ouais, il y a du J, il y a du J. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Parce qu'il y a joli, voilà. Donc les snobs, eh ben, dégagés. Aujourd'hui, vive le populaire. Le beau est partout. Fernand Léger vous le dit encore. Voyez, le beau est partout et pour tout le monde. Voyez-vous, dans notre association, on fait encore d'autres choses. Voilà. Ben parce que quand on est guidé par son cœur, on a beaucoup de dopamine et beaucoup d'ocytocine. Et plus vous en faites, plus vous avez envie d'en faire. Donc, je fatigue certaines personnes, mais peu m'importe. Parce que la nouvelle génération, elle est extraordinaire. Donc là, aujourd'hui, la nouvelle génération, s'il vous plaît, une dernière chose. Aujourd'hui, la nouvelle génération, Pascal, vous le voyez, en tant que pédopsychiatre, aujourd'hui, eh ben, on prescrit trop de Ritaline. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, la Ritaline. Aujourd'hui, on peut prescrire avec du demander à l'enfant. Qu'est-ce que tu aimes? Et là, vous expliquez avec, mais c'est très simple, hein, la libération des neurotransmetteurs. Les enfants, ils comprennent. Et moi, et donc, ah oui, la bonne nouvelle. On va finir par la bonne nouvelle. Nous, notre association, on a fait 10 ans à l'hôpital. Et maintenant, vous savez où on va? Devinette. Eh bien, on va à l'école. On part à l'école. Voilà. Pourquoi? Parce que l'école est malade. Et moi, j'ai envie de tisser avec vous. Hein. On veut tisser avec vous. Aujourd'hui, c'est urgent d'aller sauver cette nouvelle génération. Mais vraiment, je vous le dis. Et les grands, alors attention, il n'y a pas d'hypersensible, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'hypersensibilité. Il y a des grands cœurs qui ont une grande sensibilité. Mais c'est les gens qui n'ont pas de cœur, qui sont hyper froids, qui disent qu'ils sont hypersensibles. Voilà. Donc moi, je suis la porte-voix de toutes ces personnes qui ne pourront jamais vous voir parce qu'ils n'oseront pas. En fait, ils auront trop peur, ou qui sont encore dans leur chambre, qui se scarifient, voyez-vous. Qui se scarifient. Vous vous rendez compte de ça? Mais j'espère que ça vous arrache le cœur d'entendre ça. Moi, ça m'arrache tout le temps le cœur. Donc là, aujourd'hui, il faut, comme disait Winnicott, un environnement suffisamment bon. C'est quoi un environnement suffisamment bon? C'est un environnement suffisamment aimant. Okay? Et la neutralité bienveillante, mais dégagez ça. Il n'y a pas de neutralité bienveillante, il n'y a que de l'empathie. Et vous avez bien vu. Et moi, je le vois à la fin de la vie des gens. Qu'est-ce que veulent les gens à la fin de la vie? Vous voyez, il y a une dame, je l'ai accompagnée pendant 3 ans avec sa fille. Lulu s'est envolée. Et vous savez qui c'est qu'elle voulait voir en dernier? Devinette. Jules, non. Mais rigoler, rigoler, vous savez quoi? Une mémé de 98 ans. Un jour, elle me fait, c'est dingue, dingue, dingue. Vous savez ce que je lui ai prescrit? Soprano. C'est dingue de soprano. Et ben, vous savez quoi? Aux séances d'après, et ben, elle avait pris le refrain. Ah non, mais c'était succulent. Donc, voyez-vous, même au bout de la vie, et ben, il faut toujours, toujours, comme disait Germaine Tillion, quand un jour le journaliste lui dit, mais comment vous avez écrit des opérettes avec les dames qui étaient avec vous? Comment vous avez fait alors que l'instant d'après, vous alliez peut-être mourir? Vous savez ce qu'elle dit? Et ça, c'est exceptionnel. Elle dit, c'est en contemplant la beauté du ciel bleu. Et la beauté du ciel bleu, ce n'est pas celle qu'elle voit là, hein. C'est celle qu'elle avait dans son cœur. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis émue parce que, en fait, c'est possible. Et je dis souvent aux gens qui sont au bord du monde, parce que moi, je côtoie souvent des gens au bord du monde, et maintenant, c'est à l'école, des petits. Donc là, il faut s'y mettre. Et ce n'est pas une année, la santé mentale, hein. C'est toute l'humanité, la santé mentale. Vous voyez? Et donc, je dis souvent, pour vraiment, au fond du désespoir, en fait. Enfin, c'est Albert Camus qui dit, au fond, vous voyez ou pas cette citation? Enfin, bon, peu importe. Il n'empêche, dans le mot impossible, je dis toujours, il y a le mot possible. Donc, c'est possible. Alors, on finit avec un poème. Est-ce que vous préférez, donc levez le doigt parce qu'on est encore en démocratie. Vous préférez, donc levez le doigt, ceux qui veulent le cœur d'Anna de Noailles et ceux qui veulent élévation de Charles Baudelaire. Alors, qui c'est qui veut le cœur? Levez le doigt. Oh, bah dis donc, vous préférez l'autre. Bah. Et donc, alors, c'est élévation, vous pouvez tous vous élever, c'est ça? Ah, ben bah, allons-y alors. Mais le cœur vous permet de vous élever aussi, hein. Mais tant pis pour vous, hein. Vous avez choisi. Allez, alors là, je vous conseille, est-ce que vous avez encore l'odeur de votre parfum? Bon, ceux qui ne l'ont pas, ben, tant pis pour vous. Mais ceux qui l'ont, eh ben, inhalez-le. Et là, donc, pour ceux qui l'ont, ils vont inhaler un poème. Et pour les autres, alors je vous conseille vraiment de fermer les yeux pour partir là où vous avez envie d'aller. Et avant de partir, vous atterrirez quand vous le souhaiterez. Juste une chose, je vais dans une école vraiment où il y a des grandes difficultés sociales, économique et familiale. Et je fais un éclat de beauté pour 10 enfants qui ont des troubles du comportement, qui étaient en CM2. Et après, donc, ils choisissent leur parfum, leur poème en démocratie encore, et on fait un tour d'horizon. Et là, le premier qui s'appelait Haroun, là, je vous conseille aussi Haroun et la mère des histoires de Salman Rushdie, et là, eh ben, il me dit ben, « je suis partie », donc il racontait son voyage merveilleux. Et il me dit, il me regarde, il me fait, moi je veux des séances tous les jours comme ça parce que en fait moi, eh ben quand j'en fais ça, eh ben j'ai plus envie de taper. Et là, la directrice, heureusement du périscolaire était là parce que moi je le connais pas, donc je travaille toujours en équipe avec ceux qui travaillent au quotidien avec l'enfant. Et là, eh ben elle me fait, mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais cet enfant, mais vous pouvez pas imaginer, on a des problèmes. Enfin, tout un staff autour de cet enfant pour l'aider à vivre correctement. Et je dis à cet enfant, c'est quel est ton rêve dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudras faire dans ta vie? Vous savez ce qu'il me répond cet enfant? Il me dit, mais moi je veux être footballeur professionnel et je veux être neurochirurgien. Et ben je lui dis, tu sais Haroun, tu vas y arriver. Voilà. Mais Haroun, il va y arriver si, et ben on ne met pas TDAH. Voilà. C'est ça, là, il va y arriver peut-être. Donc voilà, et 3 jours après, coup de téléphone, un monsieur, l'éducateur spécialisé de Haroun, il fait, il paraît que vous avez fait un truc. Je dis, il paraît, je ne savais pas. Il me dit, mais moi, je ne viens pas pour Haroun, je viens pour ma fille parce qu'elle fait une phobie scolaire. Ah d'accord. Donc, j'ai fait une thérapie pour sa fille, pour son fils, etc. Ricochet, et voilà. Et j'ai guéri ses enfants. Voilà, parce qu'il y a un environnement familial, enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, bien évidemment. On y va? Donc, je vous conseille de fermer vos yeux pour partir comme Haroun, là où vous avez envie d'aller. Alors, il faut du silence pour écouter un poème. Élévation de Charles Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meus avec agilité et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers des champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. voilà, le temps existe. Donc. Mais comme disait Albert Einstein, pour que tout n'arrive pas en même temps. Donc normalement, en consultation, c'est la personne, là, voyez-vous, dans mon cabinet, et ben, parfois c'est 2 heures de consultation pour le prix d'une heure. 2 heures au prix d'une. Okay. Et bah parce que voilà, j'ai des personnes qui s'endorment dans mon bureau. Et là, et ben Elias, il n'arrive pas bien dormir à la maison. Il est en première. Et ben Elias, il vient bien dormir. Et il sort de là, il a bien dormi. Mais avant ça, je susurre à l'oreille un poème qu'il enregistre en direct et qu'il s'auto-prescrit après. Et ben, et je lui demande combien tu t'es auto-prescrit ton poème là pendant la semaine. Qu'est-ce que ça avait fait? Voilà. Donc, ils partent avec quelque chose. Voilà. Donc, ceux qui veulent être habilités à faire des prescriptions culturelles, avec grand plaisir. Mais vraiment grand plaisir parce que j'ai besoin de vous. Hein. Mais il faut quoi? Il faut être habilité, bien évidemment. Comme une recette de millefeuille, il faut quand même faire du bon travail. Donc, vous avez la formation, le DU. Donc là, vous avez vraiment un module, deux modules, de plusieurs modules de Pierre qui sont. Donc là, c'est une mise en bouche, hein, bien évidemment, du DU. Et donc, vous avez donc là le livre blanc qui va bientôt apparaître grâce à une ancienne étudiante de l'année dernière qui s'appelle Véronique Lemarquis. Vous imaginez qui c'est ? Pas besoin de vous le dire. OK ? Et qui a fait un livre blanc. Des prescriptions culturelles. Donc, ça va bientôt paraître sur notre site de notre association, si vous voulez bien écrire, si le cœur vous en dit, bien évidemment. L'invitation à la beauté tout attachée.fr. Et là, vous allez avoir des photos à l'hôpital Mère-Enfant, l'hôpital Lyon-Sud et l'hôpital Garot. OK ? Moi, j'amène les livres. OK ? Et après, on a un site. On fera une publication sur nos réseaux sociaux la semaine prochaine, sur LinkedIn, l'invitation à la beauté, Instagram, Facebook. Bien évidemment, commentez si vous avez aimé. Et comme ils disent toujours, si vous n'aimez pas, bah, vous vous abstenez. Hein. Merci. Voilà.